Parfois, Radio Évasion, c'est va.
C'est va, c'est va, c'est va, c'est va.
Les places en studio ailleurs.
Ailleurs.
Et qu'est-ce que ça donne? Une émission spéciale.
Enfin, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs. Nous sommes en direct depuis le festival, depuis le Rex Cinéma de Crozon pour la quatrième édition du Festival des Libertés et des Droits de l'Homme, organisé et mis en œuvre par l'association la Ligue des Droits de l'Homme de Crozon. Alors, nous sommes au rez-de-chaussée du cinéma et pour la soirée de lancement d'un festival qui commence aujourd'hui, qui se déroulera sur deux cinémas, c'est ça, du 3 au 16 février 2018. Alors je suis alors autour de moi, alors aujourd'hui on va quand même accueillir beaucoup de monde, et que tout de suite j'accueille à la table donc monsieur Thierry Fenoy. Vous êtes président de la Ligue des Droits de l'Homme et vous lancez cette quatrième édition.
Bonsoir, effectivement, je suis le nouveau président de la section de Crozon et non pas de la Ligue des Droits de l'Homme, qui est une association nationale qui travaille sur les problèmes des droits humains depuis un peu plus d'un siècle maintenant. Donc ici sur Crozon, nous sommes peut-être une vingtaine de personnes et un peu plus même, entre 20 et 30. Le festival des libertés et des droits de l'homme en Presqu'île devient quasiment une institution.
Un rendez-vous.
Un rendez-vous à ne pas manquer. Plusieurs films toujours orientés vers des questions qui touchent de près ou de loin, mais la plupart du temps de près, toute la problématique des droits humains, que ce soit au travail, que ce soit comme ce soir, mais d'autres en parleront tout à l'heure, sur les problèmes de la migration, de l'errance mondiale, que ce soit sur les problèmes d'agression, quelle qu'elle soit, ce sont toujours nos centres d'intérêt. Alors je dois dire que s'il y a une personne à qui on doit rendre hommage et très volontiers et avec le sourire dans l'organisation de ce festival, c'est celle que je remplace, puisque elle a voulu que nous soyons, qu'il y ait un turnover au niveau de la présidence, mais la cheville ouvrière, l'âme du festival, c'est Claire Duval-Oliveau, l'ancienne présidente de la Ligue.
Qui est à vos côtés,
avec
qui on parlera justement de la programmation tout à l'heure,
voilà.
Et qui joue du violon à côté de vous.
Voilà, voilà. Et nous sommes évidemment à votre disposition pour vous en dire plus sur le festival, sur les films.
Alors juste avant de rentrer dans un peu le dur de la programmation, pourquoi le cinéma, pourquoi le documentaire pour comme vecteur justement de communication de la Ligue des Droits de l'Homme?
Sans jeu de mots, j'aurais envie de vous dire parce que c'est une évasion vers la réalité. Mmh. Le cinéma, l'art en général, mais on ne va peut-être pas se plonger dans une grande réflexion philosophique sur l'art, mais le cinéma est évidemment un moyen à la fois de fiction, mais qu'est-ce qui dit mieux la réalité que la fiction ? Alors, il y a aussi le documentaire, bien sûr.
Oui, vous faites une large part au documentaire justement dans ce festival aussi.
Bien sûr. Mais enfin, la manière de dire les choses, la manière de montrer, la manière de chanter les détresses ou les joies humaines, c'est aussi une manière de mettre en exergue les droits respectés ou non de la personne humaine. Et souvent bafoués, c'est pour ça que nous sommes là.
Alors justement, je vais donner la parole à Claire Olivaud-Duval, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a à peu près 11 films pour ce festival. J'ai peut-être pas compté.
Oui, c'est cela. Oui, nous avons 11 films, dont 7 documentaires. Donc, 4 fictions par déduction. C'est 11 films tout public, auxquels s'ajoutent 4 films à destination du public scolaire.
Donc, ils viennent en plus de la programmation officielle.
Ils viennent en plus et ne figurent pas sur les programmes tout public. Et ces rencontres avec les enseignants se font sur le temps scolaire.
D'accord. Alors, par rapport à cette programmation, comment ça se passe ? Alors, elle est éclectique.
Alors.
Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, Monsieur Thierry Fenoy. C'est vrai qu'à travers la programmation, vous essayez de couvrir l'ensemble des thèmes, justement, qui vous sont chers.
Oui, nous essayons d'élargir au maximum les champs sur lesquels, disons, nous essayons d'intervenir. Là, cette année, il s'avère que nous y parlerons, donc la soirée de ce soir est consacrée aux migrations.
On en reparlera tout à l'heure, oui.
Aux personnes qui ont choisi de partir de chez elles, je tiens au terme « personnes », avant d'être des migrants, ce sont des personnes qui ont pour X ou Y raison dû quitter leur domicile. Il sera question également demain du droit des petits patrons pêcheurs à pouvoir continuer à pêcher de façon traditionnelle.
Alors avec un film des lois et des hommes, pour ceux qui écoutent, qui prennent l'émission en cours, et fait cette émission sera rediffusée, peut-être que le film à ce moment-là sera passé, mais on donne le titre, hein, dont vous parliez, c'était
« des lois et des hommes » qui sera projeté demain après-midi à 15h. Au Rocamadour de Camaret.
D'accord.
Suivront les thèmes suivants. Le Chili, hein, avec un film de fiction intitulé « L'été des poissons volants », qui met en lumière un peuple extrêmement discriminé au Chili depuis, on va dire, des siècles et des siècles, depuis, en gros, l'invasion, la conquête du sud de l'Amérique, hein.
Je parle des
Mapuche. Mardi soir, un film à ne pas manquer, Aube dorée, une histoire personnelle, et la réalisatrice nous fera le grand plaisir d'être avec nous, non pas physiquement, puisqu'elle vit en Grèce, elle est grecque. Il s'agit d'Angélique Kourounis, et qui nous fait le plaisir d'être via le duplex, tout simplement Skype, qui répondra aux questions des spectateurs.
Donc,
à l'issue.
Une journaliste
Elle est journaliste, oui, elle a une carrière, disons, assez diversifiée. Et son film, bien sûr, parle d'Aube dorée, le groupe d'extrême droite extrêmement violent de la Grèce, hein, qui sévit, disons, depuis des années et des années. Un autre film, Wulu, sera projeté, lui, et il n'y aura pas de débat, parce que pour la plupart des projections, nous mettons un point d'honneur à faire venir des intervenants, des personnes qui sont des spécialistes, qui, à nos côtés, anime, c'est non pas débat, parce que pour débattre, il faudrait qu'il y ait le terme en lui-même peut penser qu'il y a des gens qui s'opposent les uns aux autres. Non, nous, ce que nous proposons, ce sont des échanges avec le public.
Donc après les séances, comme ce soir d'ailleurs, on en parlera
et ce
tout
soir,
à l'heure.
Et nous avons décidé cette année, notamment les projections autour des week-ends, de terminer ces discussions autour d'un pot de l'amitié. Ce soir d'ailleurs, nous vous y invitons cordialement.
Donc en fait, sans pouvoir, puisque en fait le temps nous est compté quand même,
oui,
sur cette émission, donc sans faire une revue de tous les films, mais c'est vrai que vous abordez donc la solidarité, on a la pression au travail à travers Corporate, donc les inégalités. Ouais, les inégalités avec Wulu, protection de la vie privée avec un film qui sera Nothing to Hide, donc qui est un documentaire. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question. Comment ça se passe, justement, vos sélections? Voilà, combien de temps avant voilà, il y a une commission. Comment ça se passe?
Alors, la sélection, nous sommes, il y a un petit groupe de travail qui est le groupe cinéma. Et donc, nous nous réunissons assez tôt dans l'année, enfin, disons, après la rentrée, hein, aux alentours de la Toussaint, pour sélectionner les films que nous allons présenter au public crozonnais. Ces films tournent pour la plupart d'entre eux dans le réseau de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, et ont déjà été projetés par plusieurs sections régionales. Et on à cela s'ajoute certains films dont on a entendu parler, mais la plupart de ces films tournent dans le réseau LDH. Vous le verrez, la plupart d'entre eux ont été sélectionnés pour bon nombre de festivals déjà, oui, et ont reçu des récompenses. Notamment le film de ce soir qui a été primé à 4 reprises.
Donc Un paese de Calabria, qui sera projeté donc samedi.
Un paese de Calabria, oui. Projeté dans quelques instants à 20h30, je le répète, au cinéma Le Rex de Crozon.
Et alors, justement, il y a un truc intéressant, vous en parliez tout à l'heure, de la relation, du rapport entre documentaire et fiction. Comment vous l'équilibrez? Est-ce que vous disiez que quoi de mieux que la fiction pour parler de la réalité? On peut dire aussi quoi de mieux que le documentaire pour parler de la réalité.
Oui, on peut dire.
Comment vous l'équilibrez? Quel choix?
On essaye de faire à peu près moitié-moitié ou 40-60. Bon, ce n'est pas facile. On fait aussi avec les éléments qu'on trouve, les éléments.
Mais il y a une volonté de vous dites moitié-moitié, on est quand même plus sur le documentaire.
Il est certain que dans les films qu'on peut avoir vus ou dont on peut avoir entendu parler, les documentaires sur les sujets qui nous préoccupent sont peut-être un peu plus nombreux que les films de fiction. Bon, c'est de toute façon, il faut bien aller des deux côtés. Hein.
Claire. Je peux ajouter qu'en fait, oui, la plupart des personnages de ces documentaires sont de véritables héros. Donc ce soir, nous allons voir l'actuel maire du petit village de Calabriace. C'est un héros. C'est pratiquement un personnage de fiction. Demain également, je pense au film Des lois et des hommes, le petit patron de pêche de cette île irlandaise qui retrousse les manches pour aller s'inviter aux tables européennes, des discussions européennes, seul. C'est un sacré parcours d'homme très courageux. Et donc, le documentaire met en scène de vrais personnages quasiment fictionnels.
Parlez-nous un peu aussi du film Nothing to Hide, qui sera projeté, donc vendredi 9 février, puisqu'on a des jeunes là dans la salle qui nous entendent aussi, et j'imagine des usagers de réseaux sociaux et,
et du téléphone et du portable. Téléphone.
Je pense que ça va être un moment aussi important du festival.
Alors ça va être un moment important parce que la Ligue des droits de l'homme est très 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 engagée sur la protection des données personnelles. Et ces petits objets-là, et dans nos maisons les objets plus importants qu'on appelle des ordinateurs, sont de véritables espions, même quand on n'y touche pas. Donc seront justement, puisque vous me tendez la perche, bien sûr, l'association Anti-Linky sera présente à nos côtés pour animer ce film Nothing to Hide, que j'encourage vraiment les parents à venir avec leurs jeunes, avec leurs collégiens, disons, hein, avec leurs enfants, parce qu'ils vont être très surpris de ce qu'ils vont découvrir.
Il y aura une discussion aussi après la projection de ce film.
Il y aura un échange avec nous, Ligue des droits de l'homme, parce que nous sommes vraiment très engagés. Alors c'est vraiment la Ligue des droits de l'homme qui est probablement l'association la plus engagée sur la protection des données personnelles, avec la Quadrature du Net, si vous avez déjà entendu parler de cette association-là, nous y ferons référence. Voilà, il y aura des personnes présentes dans la salle du collectif Anti-Linky qui sont justement très engagées sur la protection des données, des individus.
Alors ça, ça sera le vendredi, justement,
vendredi prochain.
Donc, chers auditeurs, si vous écoutez cette émission jeudi, vous êtes le jeudi, eh bien, jeudi 8, sachez que ça sera demain. Voilà, c'est un peu compliqué de se retrouver dans les dates de Radio Évasion, par voir avec ses rediffusions, mais c'est comme ça. Et peut-être aussi un autre focus sur Terre des Roses avec
un documentaire absolument magnifique qui met en lumière les femmes, les combattantes kurdes. On ne va pas les appeler les Peshmerga parce que c'est un vocabulaire réservé aux hommes. Hein. C'est le Peshmerga, c'est celui qui va au-devant de la mort. Mais ces combattantes, à plus d'un titre, sont de véritables héroïnes. C'est pour ça, quand nous parlions tout à l'heure de fiction, documents, fiction, vous savez, toujours est-il que ces documentaires sont extrêmement esthétiques. Et nous aurons le plaisir d'avoir à nos côtés Jean Ladan, qui est, je ne sais pas si le terme peut exister, mais on va, disons, les néologismes ont parfois du bon, c'est un kurdophile. C'est un monsieur qui habite à Plomodierne, qui s'est passionné pour le Kurdistan, il a cela 25 ans, et qui va régulièrement là-bas, y compris quand dans les zones de combat. Et il nous fera le plaisir d'être à nos côtés pour répondre aux questions du public. Donc ce sera mardi prochain.
Oui, parce que pour le public,
lundi 12 au Rocamadour de Camaret.
Loïc est à côté de moi qui posait une question. Louis, Loïc, chers auditeurs, je te rappelle que les auditeurs ne te voient pas. Donc Loïc, tu es à côté de moi. Loïc, tu avais une question.
Non, c'est une réflexion. Le public lambda a beaucoup de mal à se retrouver dans les problématiques très complexes de cette région du monde. Et c'est très, très intéressant que des gens qui connaissent parfaitement ce problème portent la parole de façon à éclaircir un petit peu. Parce qu'on a du mal, bien souvent, si on n'est pas vraiment... informé de, on a vraiment du mal à comprendre un peu ce qui se passe dans l'actualité en général, quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Donc Terre des Roses qui sera projetée donc le lundi 12 février à 20h30. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot d'esthétique. Je pense que c'est important aussi de revenir sur ce terme puisque voilà, c'est les documentaires, les films. On est quand même dans du plaisir aussi. Voilà, on vient pas voir. J'imagine que l'idée, c'est pas de ressortir des projections du festival avec les malheurs du monde sur nos épaules.
Tout à fait.
Et c'est un peu, on va en parler. Et puis on rebondira aussi justement sur l'ouverture de ce festival avec Un Paese di Calabria, et puis aussi la fin de ce film avec des messages aussi envoyés positifs peut-être.
On va citer Dostoïevski qui disait que c'est l'arbre de beauté qui devra sauver le monde. Alors je ne sais pas si un jour le monde sera sauvé, ni par qui, ni par quoi, mais la formule est très profonde. Si on se cantonne à des sujets rébarbatifs, gris, noirs, et pour parler des droits de l'homme, ça ne donnera pas beaucoup d'espoir à qui que ce soit. Moi, si je suis ici à la LDH, c'est parce que je veux vivre d'espérance et donc la beauté en fait partie.
Et donc justement, c'est avec ces choix d'ouverture de film Un Paese di Calabria, sur lequel on va revenir dans un instant, et également enfin de Sas en Sas, vous ouvrez, vous fermez.
Alors non, nous fermons sur l'arbre de l'enfant justement, excusez-moi. Me tends la perche,
oui, sûr,
avec l'arbre de beauté, Thierry. Mais il y a
j'avais noté que le film de fermeture, l'arbre, était justement un film qui ouvrait.
Oui, tout à fait. Nous pouvons parler de l'arbre de l'enfance, de la fermeture, et nous reviendrons sur De Sas en Sas juste après, si vous le voulez bien.
On n'aura pas le temps.
Mais l'arbre de l'enfance est un film, justement, un documentaire extrêmement esthétique sur un sujet qui peut paraître lourd, puisqu'il s'agit des violences faites aux enfants. Mais nous avons tous été des enfants et nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des parents. Et ce film est un véritable message d'espoir et vu à travers le regard d'une jeune fille que la réalisatrice a suivie entre ses 11 et 17 ans. Et si vous voulez venir vous ressourcer au bonheur de l'écoute de cette adolescente, venez jusqu'à nous parce que c'est vraiment un très très beau film où chacun de nous peut puiser et la source pour moi est intarissable.
Et donc ce film qui sera projeté deux fois.
Il sera projeté deux fois, l'après-midi
voilà.
Et le soir, et l'une des protagonistes du film, qui est une maman, Sera présente. Elle répondra donc aux questions du public. Et donc, nous pouvons reglisser sur De ça sans sas, qui sera projeté le mardi.
Ouais.
Le mardi 13.
C'est ça, le mardi 13,
le
pareil.
Mardi 13,
double projection, 15h, voilà.
Voilà, en présence de Jacques Normand, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme de Morlaix, qui a été visiteur de prison et qui viendra avec une petite équipe aussi de personnes qui œuvrent auprès des détenus. Voilà une soirée vraiment consacrée au milieu carcéral, ô combien d'actualité. Puisque
tous les sujets, de toute façon, tous les films documentaires que vous proposez ont trait plus ou moins, voire plutôt proche même, plus à l'actualité. Nous sommes en direct depuis le cinéma Le Rex pour la soirée d'ouverture du 4e Festival des Libertés des Droits de l'Homme. Je vous propose tout de suite une pause musicale. On se retrouve dans un instant sur les ondes de Radio Évasion.
Au début des comètes balboutiers, ni poisson, ni grade, ni horloge, ni mesure, mais des bribes dérivant. Pas d'abri pour le mensonge, ni tamis pour l'or. C'était des traces fulgurantes. La beauté couvait ses rites et le poison. C'était des feux sauvages envolés dans des bourrasques. Qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. L'espasme de la nuit émeuve quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux. Danser contre leurs fesses, des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Ce versant lunaire a mille instants de sucre, mille instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements. Important.
Lojo, Tout est fragile sur les ondes de Radio Évasion 100.4, qui est à cette soirée d'ouverture du festival, du 4e festival des libertés et des droits de l'homme organisé par la Ligue des droits de l'homme de Crozon, qui est avec nous sur ce plateau radio. Et vous projetez ce soir Un paese di Calabria, c'est le film d'ouverture.
Proprio vicino qua, la nave ha toccato terra. La storia di Adriace è cominciato con il nostro barco, quanto è sbarcato qua.
Facite la mossa a sti pezzetti.
Io non posso andare, sono più di te, ma non è come se sconosci.
E Dio ha voluto che nous amène ici e nous en accueille come ça.
Mi piace invece ferito, è tornato alla vita.
La solita stravaganza di mio figlio.
10 curve che sono sbarcate da cosa, me li porto.
Sì, sì. 9 ragazzi che vengono dall'Egitto, si vedono sopra le azioni, non si vedono.
Però quello che sicuramente possiamo fare, che va combattuto senza mezzi termini, la cultura mafiosa.
Il voto del diritto del dovere civico.
Non deve passare la riputazione, non voto.
Ma voto italiano,
ma voto. Piace, ha avuto una manna del cielo.
Voilà, Un paese di Calabria qui est projeté donc au Rex dans le cadre de ce 4e festival des libertés et des droits de l'homme. Alors on n'avait pas de traducteur juste en direct puisque en fait tout est un peu dans le texte, mais c'était pour vous donner l'ambiance. En gros, a priori ce qu'ils disent c'est qu'ils sont tous contents d'avoir accueilli ces migrants. Je vous donne un peu une réponse, mais quand même je poursuis dans ma question. Pourquoi vous avez choisi ce film, Claire Duval-Olivo?
Un choix qui est collectif au niveau de la section, bien sûr. Alors, il s'avère que nous œuvrons depuis, plusieurs années, enfin depuis quasiment la création de la section. Nous sommes persuadés qu'en presqu'île, il y a possibilité d'accueillir des migrants. C'est une presqu'île qui a un certain nombre de logements vacants, une bonne partie de l'année. Et il y a, une tradition en plus, hein, ancienne, à laquelle de toute façon nous ferons référence tout à l'heure avec les élèves justement du Collège Alain.
Pardon, excusez-moi, vous pourriez nous dire la taille à peu près de la commune de Riace qui est présentée dans
Alors,
le film?
La commune de Riace est un petit village de Calabre qui était de 900 habitants en 1998 et qui a vu arriver sur ses côtes un bateau avec 200 Kurdes. Donc ces 200 Kurdes ont été pris en charge par la population qui les a donc au mieux hébergés et ensemble, avec la population, ils ont retapé les vieilles maisons qui étaient délaissées parce que les jeunes quittaient un à un le village. Le village se désertifiait, il n'y avait plus que des anciens. Et donc une réelle amitié s'est créée entre ces migrants, enfin ces personnes qui avaient dû fuir leur pays, et ce petit village. Et donc... ils se sont, vraiment, c'est devenu une vocation pour ce village d'accueillir des personnes, puisque en fait, en 25 ans, ils ont accueilli 6000 migrants, puisqu'on les a mis en place un refuge pour personnes migrantes.
Donc, vous ouvrez le festival avec ce film, et vous avez invité pour cette soirée donc David Torondel, qui est vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Quimper, co-président également d'un collectif citoyen solidaire. Bonjour, David Torondel.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut attendre ça d'un accueil comme ça dans le Finistère, un accueil comme celui-ci dans le Finistère aujourd'hui?
Ah, c'est possible. C'est parfaitement possible. Oui, oui. En clair, c'est vrai qu'on le voit, là, l'exemple du film de ce soir le montre, mais c'est un exemple qui pourrait être présent partout. Et on le voit, les différents centres qui se sont ouverts en France ont toujours bien marché quand il y avait un engagement bénévole autour. Et oui, c'est possible. Un bon accueil est possible, oui.
Aujourd'hui, on va prendre un peu de hauteur sur le sujet en restant tout dans notre territoire. On sait à peu près combien de personnes demandent l'asile dans le Finistère.
Alors, dans le Finistère, en fait, ça évolue chaque année, donc c'est assez difficile d'avoir des chiffres exacts. Les derniers chiffres qu'on avait remontaient à 2016. De mémoire, je crois que c'était 250 demandeurs d'asile en 2016. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il y a eu 250 personnes qui ont obtenu l'asile. Ce sont 250 personnes qui l'ont demandé. Après, le taux d'obtention était, je crois, de 35% par là.
Alors, en plus, vous parlez là, j'imagine, des personnes identifiées, puisqu'il y en a aussi qui ne sont pas identifiés. Donc,
Là, je parle des demandeurs d'asile, oui, ceux qui se sont vraiment enregistrés en préfecture et qui ont enclenché une procédure administrative de demande d'asile. Oui.
Quelles sont les grandes structures qui œuvrent justement à l'accueil de ces migrants sur le territoire ?
En fait, les centres d'accueil, il y en a plusieurs types. Il y a des centres d'accueil provisoires et il y a des centres d'accueil pérennes qui sont gérés par des associations gestionnaires, des grosses associations. Il y en a trois sur le Finistère, Coalia, Massé-Trévidi et Adoma.
Les moyens vous semblent-ils suffisants justement, ou alors il y a besoin de mettre d'autres dispositifs en place ?
Les moyens sont clairement insuffisants. J'ai pas les chiffres exacts sur le Finistère, mais en tout cas sur la France, la loi dit qu'un demandeur d'asile est censé pouvoir bénéficier d'un logement tout le temps de sa procédure. Et il y a à peu près 40% des demandeurs d'asile qui n'y ont pas accès. Sans parler des étrangers qui sont simplement en demande de titre de séjour, etc., qui se retrouvent... Les hébergements d'urgence sont saturés.
Alors oui, on parlait des possibilités d'accueil dans le Finistère, mais je voudrais faire un parallèle avec Riace.
Riace, Loïc.
Le village dans le film. Il y a quand même donc une population qui accueille des gens, mais il y a aussi une volonté politique des élus du coin. Est-ce que dans le Finistère, on retrouve ce même problématique, ou pas de problématique du tout, où on est confronté justement à des élus qui seraient un peu hostiles à la venue de personnes immigrées ?
Alors c'est difficile de répondre d'un point de vue large. Il y a clairement des élus qui sont pour l'accueil. Il y a des élus qui sont clairement contre. Il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas d'avis, ou qui n'en expriment pas. C'est très diversifié.
Mais ce que je veux dire, on met pas un frein systématique, il n'y a pas vraiment des barrières qui s'installent, ou ça se passe facilement ou pas, quoi.
Alors, on met pas d'accélérateur non plus.
Non, clairement, de toute façon, les élus, enfin les maires de municipalités, quand un centre s'ouvre dans leur ville, en théorie, c'est la préfecture qui le décide, ce n'est pas eux. Donc ils peuvent mettre l'accélérateur ou des freins. On voit plus généralement des freins qu'autre chose. Mais voilà, mais c'est la préfecture qui, en théorie, gère ça.
Alors pour une petite collectivité, quels sont les besoins financiers, humains ou administratifs pour accueillir un centre d'hébergement ?
En fait, généralement, les centres, quand un centre s'ouvre, c'est souvent dans des bâtiments qui sont en hivernage ou des bâtiments qui ne sont plus utilisés. La grosse problématique est que les assos gestionnaires s'occupent de tout ce qui est administratif, de l'accompagnement juridique de base. Mais sans les bénévoles, il y a quand même relativement peu de centres qui fonctionnent, ou alors ils fonctionnent très mal. Les bénévoles servent à faciliter l'intégration, à donner des cours de français, ce qui ne devrait pas être la mission de bénévoles.
Donc on a besoin d'une armée de bénévoles, alors.
Ah oui, clairement, oui.
Claire Duval-Oliveau.
Mais disons qu'ici, en Presqu'île, hein, depuis le mois de septembre, nous accueillons deux familles qui sont effectivement envoyées par l'une des associations, je ne citerai que Coalia, qui a deux logements sur la Presqu'île, destinés à des demandeurs d'asile. Et donc, tout le tissu solidaire de la Presqu'île, là, s'est mis en action pour aider ces personnes.
En Presqu'île de Crozon, on a deux familles... On a deux familles
officielles. Oui, qui
d'accord.
Sont des demandeuses d'asile.
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ?
Alors, ils viennent essentiellement d'Europe, hein, et d'Europe de l'Est. Tout cela se passe plutôt bien. Alors, il y a un tissu bénévole, c'est assez récent ici en Presqu'île. Mais peu à peu, on s'organise.
Donc tissu bénévole, donc la Ligue des droits de l'homme,
le Secours populaire qui fait beaucoup aux côtés des Restos du Cœur, et le Secours catholique, qui sont les trois disons associations de solidarité de la Presqu'île qui œuvrent à nos côtés. Nous, on sert un petit peu de coordinateur et de chauffeur taxi. Mais ces familles sont également bien pris, disons, intégrées grâce à une commune qui a fait ce qu'il faut aussi pour qu'elles se sentent bien en Presqu'île.
Alors moi, j'ai envie de vous poser la question. Deux, c'est pas beaucoup.
Deux, ce n'est pas beaucoup parce que si...
Non, mais deux, c'est pas beaucoup par rapport à la masse qui est censée nous submerger.
Et parce que reprenons le petit village de Riace dont il va être question ce soir. Ce village était de 900 personnes. Ils voient 200 personnes arriver. Ils ouvrent leurs portes et ils tendent leurs bras. Imaginons, en Presqu'île, nous devons avoir 8000 personnes. Imaginez que donc 2000... parce que ça fait un peu plus d'un quart même, que 2000 personnes débarquent sur nos plages et puis qu'on ouvre nos portes. Alors, nous avons une belle leçon à prendre humaine de ce petit village ce soir.
Pourquoi d'après vous, nous n'en avons que deux, excusez-moi, un peu de la trivialité. Mais c'est, voilà. Alors, est-ce que on n'a pas les moyens? Est-ce qu'il y a une volonté? Il y a un manque de volonté un manque d'envie et puis un manque de volonté de solidarité entre les territoires. Est-ce que c'est un déficit d'organisation?
C'est très curieux parce que pour répondre à cette question, donc
Thierry Fenois, président de la Ligue des droits de l'homme, Crozon.
on peut dire tout et son inverse. Je crois que les gens n'ont peur que de ce qu'ils ne connaissent pas.
Donc, j'ai oublié de noter que nous sommes dans une salle où une exposition a lieu, donc mise en place par la Ligue des droits de l'homme sur comment lutter contre les préjugés. Voilà, on n'a pas parlé encore.
Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et si le hasard ou la volonté d'une personne fait que dans un lieu précis, que ce soit Crozon ou ailleurs, quelques dizaines de migrants étrangers arrivent, et bien comme par hasard, les plus récalcitrants vont peut-être se trouver être les plus ouverts et les plus accueillants. Et on voit ça, on avait vu un reportage sur un petit village, je ne sais plus où, dans le hein. Non, en France, avec un maire qui s'est trouvé avec 30 jeunes, je ne sais plus d'où ils arrivaient, enfin bref. Et au début, il y avait beaucoup de résistance et de réticence. Et puis peu à peu, au fil des jours, on s'est aperçu que ces jeunes, ils jouaient au foot comme nos enfants. Ouais. Et tout se passait très bien. Mais on n'a peur que de ce que l'on ne connaît pas.
Mais il y a une autre problématique, en parlant du peu d'immigrés qu'il y a ici, de personnes immigrées qu'il y a ici à Crozon, c'est aussi l'aspect géographique, parce que là, on n'accueille pas des immigrés sur les plages, on les accueille via d'autres grands centres. Et effectivement, c'est quand même plus... confortable entre guillemets d'accueillir ces personnes sur des proximités de grands services plutôt que dans des régions plutôt éloignées, je dirais, des zones urbaines, quoi, non?
En fait, on voit un petit peu le tout et son contraire. C'est vrai que les personnes, en tout cas quand on discute avec ces exilés, c'est vrai qu'ils ont au départ plus l'envie d'être dans des grandes villes. Et en même temps, ils voient aussi que l'accueil est souvent beaucoup plus chaleureux dans des petites communes. Il y a un aspect qui n'est pas forcément pratique, effectivement. Mais cet aspect pratique est compensé par l'accueil qui est souvent plus authentique. Et une proximité qui est beaucoup plus évidente et facile à mettre en place.
Parce qu'il faut les héberger, il faut les éduquer, il faut les soigner, parce qu'il y a des déplacements pour aller faire des examens, des choses comme ça.
Il faut surtout, et d'abord et avant tout, les nourrir, car ils n'ont pas un centime. En tout cas, ceux qui ont été refusés par l'OFPRA et la CNDA, qui n'ont donc pas le statut de réfugié.
Rappelez à l'OFPRA.
Qui sont quand même.
Rappelez ce qu'est l'OFPRA.
L'Office français pour les réfugiés et apatrides. Et la CNDA, c'est la Cour d'appel, la Cour nationale du droit d'asile. Donc, ceux qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié et qui peuvent quand même rester au moins quelque temps sur le sol français de façon régulière, juridiquement régulière, puisqu'ils peuvent faire d'autres demandes, d'autres recours. Ces personnes-là n'ont pas un centime. Tant qu'on est en demande d'asile, il y a des petites allocations qui ne vont pas très loin, mais il y a un petit peu quelque chose. Quand on n'est plus dans ce cadre-là, même si on a encore le droit de rester sur le sol français, on n'a pas d'ordonnance de quitter le territoire français rendue par le préfet, on est provisoirement mais légalement sur le sol français. On n'a pas un centime et on n'a pas le droit de travailler.
Voilà,
donc, heureusement qu'il y a des secours populaires, des Restos du Cœur ou des secours catholiques pour nourrir, au sens le plus basique du terme, pour nourrir ces personnes qui n'ont absolument pas les moyens d'acheter la moindre carotte et la moindre pomme de terre.
David Torondel, j'ai une question un peu piège. Voilà. Vous avez 2 minutes pour répondre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Ah, effectivement, non.
En deux minutes, c'est impossible.
Vous avez 2 minutes.
Ce qu'il faudrait faire, il faudrait, pour moi, la première chose, ce serait d'être dans, je sais, ça paraît paradoxal, mais d'être dans une vraie politique d'accueil réaliste. Parce que là, c'est le discours qui est tenu. C'est prendre conscience que accueillir ne coûte pas plus cher que de construire des barrières, déjà. Parce que là, quand on regarde un peu, quand on voit les sommes faramineuses qui sont dépensées au niveau de l'Europe pour appliquer des règlements qui sont totalement injustes, qui coûtent des milliards d'euros, je suis convaincu que ça coûterait moins cher d'accueillir et de donner les moyens de bons moyens d'intégration pour les étrangers qui veulent s'installer en Europe.
Surtout qu'une personne immigrée, c'est quelqu'un de très jeune en général, qui, pour le futur d'un pays, ne peut être que bénéfique.
Ah bah, concrètement, quand on parle avec eux, ils ont là, le préjugé le plus courant qui est qu'ils viennent pour profiter des allocations. Voilà, ça, c'est, il suffit de passer juste 2 heures dans un centre d'accueil pour réfugiés pour s'apercevoir du contraire. Ils ne demandent qu'une chose. C'est travailler, c'est participer à la vie, citoyenne, etc. Ils ne demandent que ça. Oui. Ils ne sont pas du tout là pour profiter, au contraire. Ils veulent travailler, ils veulent participer à la vie citoyenne. Oui.
Mais juste, parce qu'on parlait tout à l'heure justement du peu de demandes, ou en tout cas du peu de personnes à venir, enfin qui demandent un soutien au niveau de notre territoire. Est-ce qu'il y a au niveau national, voire européen, est-ce qu'on pourrait attendre une sorte de réseau qui travaille justement à la coordination de différents territoires pour l'accueil?
Alors il y a plein d'initiatives qui se mettent en place comme ça. Il y a les états généraux d'immigration qui sont en train de se mettre en place, enfin, qui sont déjà en place. Il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, associatives, qui se mettent en place, mais on est... Ce qui est compliqué, c'est qu'on a... Moi, ça fait 3 ans que je suis bénévole sur le terrain. Ça a totalement changé, j'ai l'impression, en 3 ans. C'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on accompagnait des demandeurs d'asile, on était dans l'aide à l'intégration, dans l'aide de terrain. Maintenant, c'est triste, mais on n'en est plus là. Maintenant, on se mobilise pour essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas expulsés trop vite.
Dans l'urgence.
Dans l'urgence, mmh. Oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on est dans une gestion de l'urgence, faire en sorte que les gens ne soient pas expulsés, alors qu'on devrait être là pour faciliter leur intégration.
Là, moi, je suis un simple citoyen, je suis sensibilisé par le problème et j'ai envie d'aider ces gens-là et j'ai envie de les aider par un accueil, par n'importe quel moyen. Qu'est-ce que je peux faire et à qui je dois m'adresser?
Les associations sont très nombreuses. Sur le Finistère, il y en a un grand paquet. Il faut, ça c'est très facile, hein, il suffit d'aller voir n'importe quelle association, que ce soit la LDH, les Secours Populaires, Secours Catholiques, la CIMAD. Il y a un très grand nombre d'associations, c'est vraiment pas difficile.
Mais ça demande pas des compétences particulières?
Non, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est vrai que des associations comme le Secours Populaire, Catholique, etc. seront vraiment dans l'aide de terrain, la nourriture. Nous, la LDH, on est plus dans l'accompagnement, enfin, en tout cas, moi, je suis plus principalement sur l'accompagnement juridique, la défense des droits. Donc, ça dépend vraiment des envies de chacun. Chacun peut s'investir vraiment comme il le souhaite. Il y a toujours, de toute façon, de quoi faire, et on est vraiment en manque énorme de bénévoles.
Vous êtes à l'écoute de Radio Évasion sur le 100.4 FM et nous sommes en direct. Nous enregistrons une émission depuis le 4e Festival des Libertés et des Droits de l'Homme. Merci David Torondel pour toutes ces précisions. Les chanceux qui sont avec nous pourront continuer cette conversation avec vous et bien sûr les membres de la Ligue des Droits de l'Homme ici présents. On fait une pause musicale et on se retrouve dans un instant.
Sans rien dire, les ports abondants d'écriture de savoir, la smala André Dlocks dans une.
Voilà, on écoutait encore l'audio, puisqu'en fait, voilà, ma co-animatrice n'étant pas là, elle avait prévu aussi sa petite besace de musique, et moi la mienne, et du coup, il n'y a que la mienne qui passe. C'était encore un titre de l'audio, mais vous aurez compris, on aime beaucoup l'audio à Radio Évasion, avec cette fois-ci la Marseillaise en créole. À toi, Loïc.
Sur la route de l'exil, un texte que j'ai écrit personnellement pour ce sujet. Les gens de rien ne savent pas. Ils ne savent pas qu'en prenant la route, ils ont laissé derrière eux des ciels étoilés. Ils ne savent pas qu'ils ouvriront la douceur de la terre et l'abondance des orangers. Ils ne savent pas qu'en quittant leur village, ils chemineront vers des déserts de souffrance, larvés de violence en transit sur des routes à péage. Une vie de rien, plus rude encore que leur coin de misère. Ils ne savent pas tout cela, les gens de rien. Ils oublieront l'odeur des épices, le goût des dattes, le bruit du vent dans les oasis. N'ayant plus de racines, plus de terre, ils promènent leur âme sur des cailloux de poussière. Pour échapper au bruit des bombes, ils véhiculent leur malheur sur des absences en départ, croiseront maintes fois leur tombe, creusant ainsi leur histoire. Ils ne savent pas que de l'autre côté, ça sent la misère et la solitude, que les usines fabriquent la haine et la peur. Ils sont partis chercher une vie qui n'est pas la leur, un or du côté de Barbès qui n'a ni les arbres, ni les soleils de leur jeunesse. Les gens de rien ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils boiront plus l'eau de la rivière, que leurs souvenirs n'auront plus de couleur. Ils ont oublié la sécheresse, les cailloux, les labeurs et l'ombre du minaret dans les soirs millénaires. Ils promènent leur espoir au hasard des attentes, ils enjambent des cadavres et des mois d'incertitude, ils ne savent pas que les soldats, les frontières, les arnaques et la solitude, attirés par les néons des vitrines, les gens de rien ne savent pas que les flics protègent même les sardines, ils ne savent pas que la musique, que la misère a un autre goût, que la violence a changé de camp, que les étrangers sont des parias, des voyous, menaçant l'ordre et le bien-pensant. Ici, on ne cultive pas l'hospitalité, on les repousse dans les fossés, les yeux éteints. Ils ne verront rien des paysages, des contrées qu'ils traversent. Il faut passer de l'autre côté, quitter sa terre et sans laisser d'adresse, partir loin sans espoir de retour. Ils ne savent pas que sur l'autre rive, il n'y a pas d'amour. La seule chose qu'ils savent, les gens de rien, c'est qu'il faut marcher et marcher encore. Le repos ne se fera qu'à la fin. Ils se sont fixés un but, un seul, vivre. Même s'il faut marcher, et marcher encore, sous le soleil, sous la pluie, dans le froid, marcher jusqu'à tomber de douleur, marcher de tout son poids pour trouver un ailleurs, et croire qu'ici, un Dieu les attend au-delà des mers, au-delà des frontières. Un Dieu qui leur donnera peut-être un peu de lumière.
Merci Loïc. Alain, rapidement.
Alors, rapidement, une citation d'un médecin philosophe arabe qui s'appelle Averroès et qui a écrit ceci. L'ignorance mène à la peur mène à la haine mène à la violence. Voilà l'équation.
Merci Alain, et nous sommes toujours au Rex pour ce quatrième festival des libertés et des droits de l'homme. Et autour de moi, Antoine, Colline, Louis, Eric et Patrick, leur enseignant. Je parle d'élèves du collège Alain qui nous reviennent tout droit du festival Longueur d'onde, où ils ont présenté un documentaire radio réalisé donc en classe. Là, ils sont en train de... C'est moi qui parle, c'est pas moi qui parle. Mais avant de parler un peu du projet, comment... Alors voilà, rapidement, puisque c'est vrai que le temps passe, c'est un documentaire qui parle également de la migration à une autre époque. J'ai envie de vous demander, alors je vais demander peut-être à Antoine. Bonjour Antoine, tu prends le micro. Comment avez-vous découvert la présence de réfugiés espagnols en presqu'île?
Bah, on l'a découvert avec notre prof, Monsieur Manac, qui nous a
ici présent.
Oui, qui nous a parlé de ça. Il nous a tendu une feuille, il nous a dit voilà sur quoi vous pouvez travailler, un sujet. Et petit à petit, on s'est intéressé et on a appris à découvrir.
Colline, ça vous a paru au début insurmontable, difficile? Comment
Bah non, en fait, c'était assez facile parce que dès qu'on a commencé à se plonger dans le sujet, après, tout de suite, on a été regardé sur Internet. On a demandé à des historiens, des professeurs. Et du coup, bah, ça s'est déroulé assez vite, en fait.
On va faire tourner un peu le micro. Louis, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que rapidement, tu peux... Bonsoir, oui. Et rapidement, tu peux nous parler un peu de cette histoire, de leur histoire, à ces migrants, justement, qui sont arrivés ici, en presqu'île de Crozon. Qui sont-ils? Enfin, pourquoi ils ont fui? Comment ils ont fui? Comment ils sont arrivés ici?
Ils ont fui la guerre d'Espagne, du coup. Nous, on a travaillé plus en 1930. C'est lors de la guerre d'Espagne. Ils fuient la guerre, la retirada. Et ils partent un peu partout et ils viennent aussi en Bretagne.
Alors, Eric, comment s'est passé donc ce projet? Quelles ont été les étapes du projet?
Bonsoir.
Bonsoir.
On a commencé, comme avait dit Colline, par Monsieur Manac qui nous a donné une image d'une tombe. Puis on a fait des recherches sur Internet.
Elle est où cette tombe?
Elle est à Roscanvel dans le cimetière.
Ouais.
Après, on a découvert son histoire. Après, on est allé justement à Roscanvel au cimetière pour voir la tombe et interviewer Monsieur Burel,
qui est donc historien.
Voilà, historien. Voilà. Après, on a interviewé Madame Lebars pour en savoir plus sur ce qui s'est passé avant la retirada, justement.
C'est qui, Madame Lebars?
C'est une de nos professeurs d'histoire au collège.
Ouais.
Après, on a eu Madame Marie Guérin qui est venue et on lui a demandé des conseils pour bien monter et avoir des idées.
Alors Marie Guérin qui est une
habilleuse sonore.
Voilà, qui travaille à France Culture et qui est châtelinoise.
Oui. Après, donc on a fait des travaux en équipe, donc certains sur le scénario, d'autres sur les bruits. Après, on a enregistré justement les scénarios. Puis après, on s'est mis d'accord sur le montage au total.
Patrick Manac, bonjour. Vous êtes enseignant au Collège Alain. Vous êtes initiateur de ce projet. Un super beau projet, un documentaire de 15 minutes. Vous avez commencé quand ce projet?
En fait, il a pris naissance l'année dernière dans ma tête, hein, quand Marcel Burel est venu au collège rencontrer les élèves de 3e. Il a présenté la présence des réfugiés à la fois en 1937 et en 1939. Et a terminé cette conférence par la photographie de cette tombe au cimetière de Roscanvel, qui est le dernier, en fait, le seul vestige, la seule trace physique du passage de ces exilés. Donc, moi, j'y ai vu tout de suite un sujet de documentaire, et donc j'aurais proposé la photographie de la tombe, et le jeu de piste a commencé. Qu'est-ce que c'était cette tombe? D'où est-ce qu'elle venait? Quelle était l'histoire, quoi, de...
Colline, qu'est-ce qui était facile? Qu'est-ce qui était difficile dans le projet? Qu'est-ce qui était chouette? Où était le plaisir? Où ça a été difficile?
Moi, j'ai trouvé que c'était très facile tout du long, enfin, je trouve, parce que à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui nous aidait à chercher. Si on trouvait pas, on nous remettait sur la piste. J'ai beaucoup aimé quand on a fait les interviews de Monsieur Burel, et aussi quand on a eu les précieux conseils de Marie Guérin.
Ouais, sur le montage. Louis, pareil, quels ont été les moments importants, quels ont été les moments, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au-delà? Alors, il y a la pratique radio, la pratique sonore, et dans la découverte du sujet.
Avant qu'on travaille sur ce documentaire, je ne savais pas qu'il y avait eu des Espagnols sur la presqu'île, des réfugiés.
Voilà. Eric, est-ce que justement ce projet, ça te permet d'avoir un autre regard sur le sujet dont on parlait tout à l'heure avec nos invités? Vous avez fait des ponts? Est-ce que vous y voyez justement des clés lire ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, parce que justement, on s'est aperçu que ce qui se passe en ce moment, c'était exactement pareil que quand les Espagnols, ils ont fui leur pays. Du coup, on a pu créer des ponts justement entre chaque... Entre les deux,
ouais. Alors, je me tourne vers vous, Patrick. Est-ce que c'est un projet qui a demandé de l'énergie au niveau... Est-ce que ça a été facile de jongler, j'ai envie de dire, entre le programme? Puisque là, en fait, je ne sais pas si... Je ne connais pas bien les programmes, mais je ne sais pas si c'est... Alors, j'ai oublié de dire que vous êtes en 4e. Voilà, alors je ne sais pas si c'est au programme. Voilà, comment... Et il y a eu une interdisciplinarité, j'imagine.
Oui, alors ce projet a été construit sur un atelier, en fait. Ce n'est pas dans des séances de cours. Moi, je ne suis pas enseignant d'histoire, hein, donc je suis enseignant de SVT, mais ma passion, c'est la radio et notamment le documentaire. Et donc, ça s'est fait sur un créneau d'une heure par semaine, et avec un collègue, Tanguy Elias, professeur de français, qui a aidé à la construction du scénario. Hein, c'était un scénario un peu particulier, les élèves ayant décidé de faire parler la petite fille décédée, elle raconte sa propre histoire, en fait. Et maintenant, il a été diffusé par les professeurs d'histoire à tous les classes de 6e, et il va l'être aussi aux classes de 4e, qui sont en train de travailler à la fois sur l'identité et à la fois sur l'immigration.
Et avec justement une présentation du projet hier au Festival Longueur d'onde, c'était impressionnant. Antoine?
Ouais, c'était assez impressionnant, il y avait pas mal de monde, surtout des lycéens, donc c'était vraiment sympa et...
Vas-y, continue, on a une petite sonnette.
C'était sympa, il y avait beaucoup de monde. On a découvert aussi beaucoup d'autres choses dedans avec les projets des lycéens. Donc ça ouvre vraiment partout, surtout les organisations.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Et voilà, l'heure passée en votre compagnie se termine. Eh bien, on se quitte justement sur votre création. Ça s'appelle, je vous laisse le dire.
Nous passerons
avec une référence plus qu'implicite, voire explicite, à Nos Passaranes. Vous êtes à l'écoute de Radio Évasion et on écoute justement ce documentaire de 15 minutes créé par les élèves ici présents et d'autres, j'imagine, qui ne sont pas là, du collège Alain.